Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Il y a quelques mois, je recevais derrière mon micro Éléonore Luna, une influenceuse survie et micro-aventure. Aujourd'hui, dans la même lignée, mais cette fois pour parler montagne, randonnée et aventure en solo, j'ai l'honneur de recevoir une autre célébrité des réseaux sociaux, celle qui partage ses aventures dans les montagnes françaises à ses 150 000 abonnés, Sarah Hiking. Cet épisode sera donc aussi l'occasion de vous partager des conseils pour préparer des randonnées, pour partir seul, avec un chien. On parlera aussi évidemment de tourisme durable, afin de changer de regard sur la montagne, vers la contemplation des paysages, la randonnée, la lenteur. Bref, plein de sujets qui, je l'espère, vous motiveront à enfiler vos chaussures de rando et à partir explorer nos belles montagnes. Sur ce, préparez votre carnet et votre stylo pour prendre des notes et place à l'interview. Bonjour Sarah et bienvenue sur le podcast Le verre à moitié plein et surtout merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, oui.
Nous sommes en décembre 2022 quand nous enregistrons cet épisode et tu as à ce jour presque 135 000 abonnés sur TikTok, 25 000 sur Instagram, donc c'est vraiment beaucoup, bravo.
Merci.
Sur tes réseaux, tu pousses chaque jour tes abonnés à partir en randonnée, en trek, principalement en France. On peut donc te caractériser d'influenceuse, mais pas que, puisque tu as aussi également lancé il y a quelques mois ta marque de vêtements d'extérieur qui s'appelle From. Et je pense que le mieux pour commencer cet épisode, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement que tu te présentes, que tu nous expliques ton parcours. Par exemple, j'aimerais beaucoup savoir d'où te vient ta passion pour la randonnée et les motivations qui t'ont poussé à mettre en scène tes aventures sur TikTok, sur Instagram, les valeurs que tu souhaites transmettre à travers ton contenu sur les réseaux sociaux.
Eh bien écoute, si tu me laisses me présenter, je peux commencer. Alors moi c'est Sarah, on me connaît sur les réseaux sous le nom de Sarah Hiking. J'ai choisi ce pseudo vraiment vite fait un jour en me disant ok, randonnée, hiking, ça passe. Donc voilà, mon pseudo c'est Sarah Hiking, mon parcours est un petit peu... C'est un peu les montagnes russes, on va dire, parce que je suis partie, voilà, j'ai eu mon bac, et après je me suis dirigée vers 2 années de psychologie sur Clermont-Ferrand. Malheureusement, le Covid est arrivé, donc j'ai passé 2 ans en distanciel, je voyais pas grand monde. Les seules personnes que je voyais, c'était quand j'allais travailler donc à Décathlon. Je bossais à côté de mes études à Décathlon, dans le rayon randonnée. Donc c'est un peu parti de là, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, j'ai passé mes 2 années d'études à Clermont et après les cours, en fait, de temps en temps, je partais me balader pour m'aérer la tête, etc. Et c'est surtout, en fait, ce qui m'a un peu inspirée, je pense, inconsciemment, c'est d'avoir été enfermée aussi pendant un moment et surtout le fait que je bossais donc à Decat. Vu que j'étais dans le rayon randonnée, donc je pratiquais un petit peu des balades, on va dire, avant, mais j'étais pas à fond randonnée. Et en découvrant le métier de vendeuse dans le rayon rando, j'ai appris à connaître les produits, j'ai appris à échanger avec pas mal de personnes qui pratiquaient. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer pour être un peu plus crédible aux yeux de mes clients, par exemple? Donc, j'ai décidé d'aller expérimenter les randos. Donc voilà, après mes cours, j'ai commencé aussi les treks. Donc, j'ai commencé les treks au bout d'un an que je travaillais chez Decathlon. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est fait pour moi, j'adore ce truc, cette passion. En parallèle, j'ai arrêté mes études de psycho parce que j'en avais marre, je me disais, ça ne me correspond pas. Donc je me suis dit, ok, j'aime la rando, j'aime bouger, j'aime voyager, je vais essayer de me réorienter et partir quelque part, faire une licence dans le tourisme et les loisirs, donc une licence pro. Et je regardais, je me suis dit, ok, il y en a une à l'île de la Réunion, donc je me suis dit, let's go, on va y aller dans la Réunion. Donc j'ai postulé. Donc je suis partie à l'île de la Réunion. J'ai fait 2 mois, même pas 2 mois, je crois 1 mois et demi à l'école. J'ai arrêté parce que pareil, ça m'a gonflé et que en fait je me retrouvais pas dedans et que je m'ennuyais plus qu'autre chose. Et en parallèle, j'étais en alternance. Donc mon alternance, je l'ai fait avec des guides de moyenne montagne qui m'ont énormément appris. Donc, même si j'ai arrêté au bout de mois, en fait, ils m'ont quand même gardé sous leur aile pendant 4 mois. Donc, j'ai travaillé avec eux sur le terrain, avec les clients. Ils m'ont appris plein de choses. Donc là, je me suis dit, OK, bon, bah, la rando, le sport en extérieur me plaît énormément. Sauf que je me suis retrouvée bloquée à La Réunion parce que ben, je ne gagnais pas forcément beaucoup de sous. Donc, je me suis dit, bon, je suis bloquée sur une île. Je fais des randos, mais pour le moment, c'est pas ouf. Donc, je suis rentrée en France, en fait, parce que j'ai commencé d'avoir quelques petits contrats quand j'étais à La Réunion. Mais la distance France-Réunion me bloquait énormément. Donc, je me suis dit, OK, eh ben, je rentre et puis je me lance à fond dans ce que je fais et on verra où est-ce que ça va me mener. Donc, aujourd'hui, j'ai arrêté mes études. J'ai plus du tout, j'ai pas de diplôme, on va dire, mais ça m'empêche pas de vivre ma vie et de pouvoir travailler à mon compte. Donc voilà.
Et donc tu vis maintenant totalement de tes réseaux Sarah Hiking?
Ouais, alors on peut dire que je vis, pour le moment je commence à en vivre. Bon, c'est très aléatoire comme domaine parce que bah, ça dépend des mois, etc. Je suis créatrice de contenu en fait. Et je travaille avec des marques. Alors là, c'est la petite anecdote. Pendant que je travaillais à Decathlon à Vichy, j'ai été contactée pour mon premier contrat par Decathlon France. Donc en fait, mes premières vidéos que j'ai vendues, c'était mon contrat avec Decathlon France. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an et demi ou 2 ans que je travaille toujours avec eux. Et voilà, donc en fait, je fais des vidéos promotionnelles ou des vidéos beaucoup de conseils, de découvertes de paysages, d'endroits que je vends aux marques, donc notamment Decathlon. J'ai travaillé aussi avec Columbia, j'ai bossé avec des offices de tourisme. Donc bref, voilà, je fais des vidéos pour les réseaux sociaux des marques et à côté, ben, j'ai mes réseaux à moi qui me rapportent un petit peu de sous quand je fais des collaborations avec d'autres marques, des offices. Voilà, c'est toujours dans ce même domaine, on va dire. Donc j'ai mes deux casquettes, casquette créatrice de contenu, casquette influenceuse. Et les deux, aujourd'hui, font que j'arrive à pouvoir me tirer un petit salaire et essayer de vivre comme tout le monde.
Et c'est fou parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu as commencé, ça fait 2 ans et demi à peu près.
Ouais, à peine. J'ai commencé réellement, je faisais le calcul tout à l'heure dans ma tête, ça fait à peu près ouais, 1 an et demi parce que mon premier contrat c'était en avril 2021. Donc voilà, ça fait à peu près 1 an et demi. Et la rando, j'en fais depuis ouais, mes 19 ans. Donc ça, ouais, ça va faire 2 ans.
Et entre les premiers contenus que tu postes sur les réseaux sociaux et le premier contrat, donc qui vient un peu marquer ta professionnalisation, il se passe combien de temps à peu près ?
On va dire que j'ai commencé à poster mes aventures sur les réseaux en octobre ou novembre 2020. Donc on va dire même pas 6 mois après. 6 mois après, j'ai eu mon premier contrat et c'est là où je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, ça peut marcher et il y a quelque chose à creuser dans ce domaine.
Comment tu expliques un succès aussi rapidement sur les réseaux alors que maintenant on dit tout le temps que bah, c'est un peu saturé le monde de l'influence, enfin, c'est ce qu'on pourrait penser, et toi donc en 6 mois ça a réussi à fonctionner, comment tu peux expliquer ça?
Ben, en fait, je pense, sur TikTok, à l'époque, j'étais, on va dire, je crois, la première à lancer des vidéos, à faire des conseils et faire du trek, et de donner voilà, des tutos, de montrer un peu mon quotidien en tant que fille, jeune, toute seule, ou même des fois accompagnée en trek, en rando. Et ça a vachement plu, et c'était pas à la mode à l'époque, enfin, c'était à la mode, mais beaucoup moins montré sur les réseaux. Et voilà, j'ai été la première, on va dire, à vraiment mettre mes vidéos. Et ça a plu, et je me rappelle mes premières vidéos ont cartonné, je faisais 1 million, 500 000 vues, j'avais vraiment des vidéos qui marchaient énormément, ce qui fait que ça s'est monté très très vite, et après bah forcément c'est devenu à la mode, parce que bah, j'ai un peu donné envie à tout le monde, etc. Et au final bah, maintenant beaucoup en font, beaucoup sont dans mon domaine, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire ouais, que c'est un peu saturé et qu'il y a beaucoup de monde.
Mais c'est assez fou parce que j'avais pas l'idée, enfin le souvenir que avant à peu près le Covid, il y avait des influenceurs randonnées. Ça avait même plutôt une connotation, la randonnée, de quelque chose d'ennuyant, pas vraiment pour les jeunes.
Complètement.
Et là, ça a totalement changé. Je vois sur Instagram, je vois quasiment plus que du contenu de personnes qui partagent des idées de rando à la montagne, des beaux lacs, des rivières, des cascades.
C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait un peu pareil. On va dire que j'ai un peu incité les gens aussi à le faire. Et au final, bah, ça a fait effet boule de neige. Et du coup, en l'espace d'un an, ça, 1 an et demi, ça a complètement chamboulé le monde des réseaux, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on voit que de ça. Donc voilà.
Bravo à toi, t'as réussi à casser un peu tes stéréotypes sur une pratique C'est quand même assez fort. Et si on continue à parler d'influence, globalement, qui sont les personnes qui te suivent? Est-ce que c'est que des jeunes, comme on pourrait penser vu que tu es sur TikTok? C'est vraiment un cliché, hein. Est-ce que c'est que des passionnés de randonnée ou est-ce que tu arrives à toucher plusieurs tranches de personnes?
Alors, bah, à ma grande surprise, je pensais à l'époque que c'était des jeunes, parce que c'est vrai qu'on dit que TikTok, c'est le réseau social des jeunes, mais au final, non, pas du tout. Les jeunes, on va dire que si je prends mes statistiques sur Instagram, parce que je me doute qu'Instagram et TikTok, c'est à peu près la même chose, on va dire, et au final, la population que je touche, ce sont des personnes majoritairement qui ont entre 25 et 35, et on va dire... Ouais, moitié 18-25 et 25-35. Parce que quand je vois mes commentaires, ce sont des gens qui ont tous à peu près 30 ans, 40 ans, bon, des fois un peu plus jeunes. Et je pense que dans ma communauté, j'ai forcément des gens qui sont passionnés, mais beaucoup de personnes qui sont novices, on va dire, et qui débutent. Et qui, donc, du coup, forcément, je les inspire et veulent se mettre à la rando petit à petit. Donc, j'ai un peu de tout, on va dire.
Et t'as déjà eu des retours de personnes qui t'ont remercié parce que tu leur as fait découvrir la randonnée ou le trek, parce que tu leur as montré qu'il existait des coins absolument magnifiques juste à côté de chez eux?
Ouais, carrément, je reçois presque tous les jours des messages où des gens sont bienveillants, me disent ben merci, tu nous inspires, grâce à toi je me suis lancée, j'ai fait mon premier bivouac, j'ai fait ma première rando toute seule, je suis partie quelques jours voyager, voilà, donc ouais, franchement, je reçois pas mal de messages et c'est vraiment cool de pouvoir me dire que j'inspire des gens même si j'ai que 21 ans. Donc c'est chouette, je trouve ça vraiment vraiment sympa.
Et d'ailleurs, là, on a évoqué plusieurs termes depuis le début de l'interview. On a parlé de randonnée, de trek, de bivouac. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre ces termes? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas forcément.
Ouais, oui, complètement. C'est vrai que souvent on me dit, mais ça veut dire quoi, trek, etc. Alors on va partir du plus simple. La rando, c'est on part le matin avec son sac, on rentre chez soi le soir. C'est une balade qui peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc du moment que tu rentres chez toi, c'est une rando. Après, quand on parle de trek, c'est une randonnée sur plusieurs jours. Donc tu pars en itinérance, ça peut être 2 jours, 3 jours, voire plus, une semaine, 15 jours, etc. Et en fait, tu ne rentres pas chez toi et tu peux soit dormir en refuge, par exemple, ou dormir en bivouac. Donc quand on dit dormir en bivouac, c'est dormir sous tente. Donc en fait, tu prends un trek, ça met tu prends ton sac à dos, ta tente, tu dors dehors en bivouac et après tu rentres. Donc voilà, c'est vraiment l'itinérance sur plusieurs jours.
Et est-ce que c'est forcément à la montagne?
Non, pas forcément. Ça peut être n'importe où. Ça peut être comme les GR, comme le chemin de Compostelle ou de Stevenson. Bah, c'est des chemins qui traversent des villes, qui traversent des villages et des campagnes. Donc non, c'est pas forcément que en montagne. Après, la montagne est un peu plus propice étant donné qu'il y a un peu moins de monde, que le terrain s'y prête pour poser une tente, parce qu'on ne va pas poser sa tente en plein village ou dans une ville, bien évidemment. Mais voilà, ça peut se faire vraiment partout et un peu dans chaque département d'ailleurs. On peut faire des itinéraires partout.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre aspect vraiment important dans les choses que tu partages. C'est que tu pars souvent seul ou bon, avec ton chien aussi que tu as récemment adopté. Il faut oser partir seul, surtout quand on est une fille. Pourquoi est-ce que tu as décidé la première fois de partir seul? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Bah, alors déjà, je suis partie seule la première fois parce que, étant donné que j'étais en psycho, j'allais pas forcément à tous les cours et que je m'ennuyais, je me suis dit, bon, bah, de toute manière, je peux pas partir avec mes copines ou mes copains. Donc, si je veux aller me balader, il bah, faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que j'aille toute seule. Donc, je suis partie toute seule et en fait, c'est devenu un peu comme une addiction parce que bah, le fait de se retrouver seule dans un grand espace, et bah, en fait, on se sent bien, on se retrouve avec soi-même, entre guillemets, et on apprend à se connaître, à tester nos limites, voir de quoi on est capable, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'au contraire, en fait, on se dit, oh ben, je pensais avoir peur et au final, pas du tout. Et puis, c'est vraiment ressourçant et c'est vrai que d'être tout seul, alors ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Aujourd'hui, je pars à la moitié seule, à moitié avec des gens. Et en fait, les deux ont des avantages. Quand on est seul, vraiment, on admire par exemple le paysage ou on se pose plein de questions, chose qu'on ne ferait pas si on est avec quelqu'un parce qu'on est vraiment face à soi-même en fait. Moi, je m'assois souvent sur un rocher et là, je fais le point sur ma vie, sur les jours qui sont passés, sur le futur, sur l'avenir, etc. Alors que quand on est deux, trois, et ben en fait, c'est plus du partage. Quand on est seul, c'est le partage avec soi-même. Et quand on est plusieurs, et ben vraiment, on peut discuter, partager, échanger, chose qu'on ne retrouve pas quand on est tout seul. Donc voilà, les deux sont vraiment cool. Et puis, bah, qu'on soit une fille ou un garçon, en fait, partir seul, ben, peu importe quoi. Au contraire, d'être une fille, ça ne devrait pas avoir de soucis. Et aujourd'hui, je croise de plus en plus de filles toutes seules et ça me fait vraiment plaisir et ça me réchauffe le cœur.
On parlait donc de voyager seule, mais récemment, tu as adopté un petit chien, donc tu es à moitié seule. Comment ça se passe, les randonnées, les treks avec un chien? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui aimeraient voyager avec leur chien?
Alors, pour le moment, on va dire que je suis pas la plus experte avec le chien, étant donné qu'elle a que 7 mois, je l'ai récupérée, elle en avait 3, donc ça fait que 4 mois. Et vu qu'elle est petite, on dit souvent, il faut pas faire de trop grosses randonnées, donc on va dire que les premiers mois, j'y suis allée vraiment doucement, je faisais vraiment des petites balades. On peut pas dire que j'ai vraiment voyagé avec elle en trek, par exemple, elle a jamais connu la tente pour le moment. Je voulais l'emmener l'autre fois, mais je me suis dit, bon, il fait peut-être un peu froid pour le moment. Donc on verra un peu plus tard pour le trek. Après, cependant, je suis partie 15 jours en Espagne avec elle et mon chéri. Donc on est parti en van, donc elle a testé l'expérience van life. Et au final, ben c'est génial de pouvoir partir avec son animal. Alors forcément, il y a des inconvénients parce qu'il faut s'adapter à son chien, on peut pas aller partout avec un chien, il faut prévoir voilà, des balades qui sont autorisées pour les chiens, il faut prévoir forcément plus de choses, mais pour moi il y a 95% de positif et on va dire 5% de négatif, et dans le négatif c'est à la limite quand elle va avec ses pattes toutes sales, elle va rentrer toute mouillée et se mettre sur les draps par exemple, ça c'est le côté négatif, mais sinon non, enfin, franchement voyager avec un animal c'est génial, et on est seul, mais sans vraiment être seul, parce qu'au final, on sait qu'on a une présence avec nous, donc c'est encore plus rassurant, encore plus cool, quoi.
C'est ça, ce que j'allais dire, ça, c'est un côté rassurant quand même.
Ouais, bon, après, ça dépend quel chien. Moi, le mien, la mienne, je peux pas dire que c'est rassurant, parce qu'elle aime tout le monde, et qu'elle aboie jamais, et qu'elle est vraiment hyper sereine. Mais sinon, en soi, oui, d'avoir un chien, c'est rassurant. On se sent mieux.
Bon, maintenant, on va changer un peu de sujet. Sur ce podcast, on parle de tourisme durable. Tes aventures, elles sont principalement en France, en montagne. Ouais. La montagne aujourd'hui, en France, on l'associe au ski, au sport d'hiver. Mais en même temps, la montagne souffre économiquement donc de la saisonnalité. Et avec le dérèglement climatique, le ski et les sports d'hiver sont de plus en plus menacés. Et donc on dit qu'il est temps de changer un petit peu notre regard sur la montagne, de montrer qu'on peut pratiquer la montagne au-delà des sports d'hiver et toute l'année. Et toi, donc, c'est ce que tu contribues à faire sur tes réseaux. Est-ce que c'est un sujet dont tu parles sur tes réseaux? Comment est-ce que tu intègres les enjeux du tourisme durable dans ton contenu et dans tes aventures?
Déjà, toutes mes aventures, pratiquement tout ce que je partage, c'est en France. J'ai jamais incité les gens à partir voyager très loin. Après, je suis déjà partie en Suisse, en Espagne, en Italie, voilà, dans les pays frontaliers. Et je le dis pas directement, mais voilà, je pense que les gens, ils comprennent derrière mon partage, parce que je pourrais partir à l'étranger, et honnêtement, je pourrais dire, ok, bon, bah là, pendant 15 jours, je m'en vais, chose que je fais pas, mais je privilégie, ouais, le slow tourisme, et puis quand je m'en vais à un endroit, je voyage, je reste dans le lieu plusieurs jours, plusieurs semaines, et j'apprends vraiment à découvrir l'endroit où je vais. Donc, inconsciemment, bah, en fait, je partage ce fameux tourisme éco-responsable, et j'en suis fière.
Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent que plus on va loin, plus beau sera le voyage?
C'est absolument faux, parce que honnêtement, on a juste à même prendre sa voiture et conduire une heure, déjà on va changer de paysage complètement. Là je suis partie récemment dans l'Hérault, on a l'impression, donc j'étais dans un canyon dans l'Hérault, on a l'impression d'être aux États-Unis. En fait on se dit, bon bah on fait 2-3 heures de voiture, quand on habite au centre de la France on se retrouve dans un canyon incroyable, et en fait on n'est pas du tout aux États-Unis. Pareil, quand je suis partie en Espagne, là, récemment, j'étais dans des gorges, donc avec une rivière magnifique, et au final, c'était exactement le même paysage qu'en France. On a des endroits en France ou dans les pays vraiment frontaliers, très proches, qui sont vraiment très similaires à tous les pays du monde. Donc en fait, bah, c'est bien mieux de voyager dans notre territoire à nous que de prendre l'avion et de partir explorer le monde entier. Alors forcément que de voyager dans le monde entier, c'est quelque chose de cool, mais au final, on n'est pas besoin d'aller à 10 000 km pour voir des jolies choses. C'est mon point de vue.
Que je partage. Et c'était quel canyon que tu as visité dans l'Hérault?
C'était le canyon du Diable, il me semble. C'est très joli, et c'est vrai que ben, je m'attendais pas à avoir un paysage comme ça. Quand on roule, on se dit, bon, ok, il est où le canyon? Et au final, on tombe dessus par hasard, et c'est juste fracture de la rétine, comme on dit.
Et est-ce que tu as des astuces à partager pour randonner écolo, dans le sens randonner en limitant au maximum son impact? Par exemple, comment tu gères les déchets quand tu pars plusieurs jours sur un trek?
Alors bah c'est simple, honnêtement j'ai toujours mon petit sac poubelle dans mon sac à dos, et puis bah déjà j'essaie de limiter au maximum les déchets et pas prendre de plastique etc. Et puis bah c'est tout bête en fait, on prend nos affaires qu'on a consommées, qu'on a mangées, je vois beaucoup de gens qui font leurs besoins dans la nature et qui laissent des monticules de papier, bah en fait c'est tout simple, on ramasse en fait, on ramasse tout ce qu'on a consommé ou qu'on a utilisé. On met dans un sac plastique, on le ferme et on le jette dans une poubelle quand on rentre. C'est pas si compliqué que ça en fait. Et c'est vrai que ça c'est un peu un sujet qui est délicat et souvent je m'énerve et que j'en ai marre de voir des déchets partout, etc. Et je me dis c'est pas bien compliqué de prendre un sac plastique et de laisser ces déchets dedans et de laisser aucune trace. Et ça c'est vraiment le truc important quand on voyage, c'est de ne laisser vraiment aucune trace de son passage. Et ça, c'est malheureusement, c'est pas acquis pour tout le monde, et enfin pour pas grand monde d'ailleurs. Donc c'est un peu triste.
Ouais, alors que c'est facile à
Oui.
faire. Comment on randonne aussi en respectant par exemple les animaux et la flore? Est-ce qu'il y a des gestes à éviter pour éviter de les perturber, de détériorer la flore par exemple?
Ben déjà, il faut rester sur les sentiers. Donc quand il y a des sentiers qui sont balisés, ben on s'amuse pas à aller à 100 mètres, 200 mètres au-dessus du sentier, parce que y a la nature, voilà, ça abîme. Donc si on peut respecter ça, c'est déjà très bien. Après, au niveau des animaux, en théorie, c'est pas souvent qu'on en croise. Ils viennent pas devant nos mains dire bonjour. On les aperçoit de loin, et puis voilà, celui qui veut le voir de plus près, il achète des jumelles ou il prend un appareil photo pour le photographier. Et puis en général, les animaux sont un petit peu, ils sont, comment dire, peureux, donc ils vont pas venir forcément s'approcher. Et puis quelqu'un de responsable ne va pas s'amuser à lui jeter des cailloux, à lui donner de la nourriture. On est chez eux en fait. Quand on voyage, quand on va en montagne, on est chez eux, donc on les respecte, on respecte leur environnement. Et puis bah on passe, on leur dit bonjour de loin, et puis on continue notre chemin quoi.
Maintenant, on va passer à la partie conseils pratiques de l'épisode, donc la dernière partie de l'épisode. Donc, c'est là que les auditeurs vont devoir prendre des notes. Alors, déjà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des a priori sur la randonnée pour le convaincre de se lancer, par exemple, si tu avais trois conseils à lui donner?
Alors, quelqu'un qui n'a jamais fait de rando, qui est réticent, déjà, il faut qu'il prenne son temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou rando, bah, faut pas qu'il parte sur une randonnée de 8 heures. Faut commencer déjà pour connaître les sensations, voir si ça plaît de marcher avec du dénivelé. Étant donné que les terrains sont un petit peu accidentés aussi, il faut vraiment que ça puisse plaire. Donc, il faut prendre son temps. Après, pour motiver quelqu'un, tout dépend les centres d'intérêt des personnes, mais je sais que personnellement, ça me motive de voir un lac, de voir quelque chose de joli. Et en fait, des fois, quand les gens me disent oui, j'aime pas la randonnée, bah, je leur montre une photo d'une cascade ou d'un lac et je leur dis bah, vous voyez ça, bah, voilà, faut marcher 1 heure, mais quand vous arrivez au bout, vous êtes content, vous avez envie de redécouvrir d'autres endroits. Donc, c'est un peu une sorte ouais, d'addiction. Et je pense qu'honnêtement, il y a peu de personnes qui n'aiment pas la randonnée. Enfin, les gens aiment voir des jolies choses dans tous les cas. Après, il faut arriver à les motiver pour marcher un peu plus, parce qu'en général, les jolis coins se méritent. Mais après, c'est une sorte de balance, quoi. On sait c'est un peu dur, forcément, de marcher, d'arriver au sommet, mais quand on arrive en haut, on se dit, ok, bon, là, j'en ai chié, mais en fait, non, c'est incroyable. Et notre cerveau oublie tout, oublie la partie difficile et ne retient que le positif. Donc, tout le monde pourrait vraiment se lancer dans la rando. Et puis voilà, après, c'est un choix. Il y en a qui n'aiment pas le sport, et ce qui est respectable. Donc, bon, la randonnée, c'est pas forcément pour eux. Mais tout le monde peut y arriver et tout le monde peut le faire.
Ouais, il faut avoir un but à la promenade en fait.
Ouais, bah c'est ça. Moi, je sais que ça me motive. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de but pour aller se balader. Moi, je sais que j'aime bien parce que c'est motivant déjà sur le psychologique. Et puis, en fait, on se donne vraiment le petit défi en mode, bon, ok, là, on sait qu'on a 6 km avec 1000 mètres de dénivelé. Mais à la fin, on sait qu'on va avoir un lac incroyable où on va pouvoir se poser et bronzer pendant 5 minutes, par exemple. Bah, c'est vraiment motivant et c'est ce qui nous permet de nous booster. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et je pense que pour 80% des personnes qui pratiquent la randonnée, c'est ça aussi.
Et est-ce que tu pourrais nous donner tes trois astuces, on va dire, pour trouver le bon endroit où bivouaquer?
Bah alors, ça, moi je sais que en général, les gens le font un peu freestyle, comme on dit, mais moi je sais que j'aime bien regarder mon itinéraire avant sur les cartes de rando en fait, et suivant les courbes de dénivelé, suivant en fait, on voit sur les cartes où est-ce que potentiellement on peut mettre une tente, parce qu'il faut que ce soit plat, il faut pas que ce soit sous une falaise, il faut pas que ce soit au bord d'un cours d'eau. Donc en général, à l'avance, j'essaye de regarder sur les cartes, et après, c'est un peu comme bon nous semble en fait, on marche et on voit un endroit qui est à peu près abrité du vent, qui est à peu près plat. bon bah ok, on pose la tente et puis voilà, faut juste vérifier que ce ne soit pas un endroit dangereux, on va dire. Mais sinon, en général, les gens qui font du bivouac, c'est un peu voilà, on y va, on voit, on pose la tente, ok, parfait.
Quand tu parles de cartes, toi tu utilises plutôt des cartes papier ou des cartes sur des applications sur ton téléphone ?
Alors moi j'utilise plutôt des applications, des cartes ouais, sur les applications. J'avoue que j'utilise des fois des cartes papier, mais voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a un peu toutes les infos avec les téléphones et les tracés, en fait j'importe des tracés d'une application, donc en fait je peux pas vraiment me perdre parce que j'ai mon tracé, et après bon il y a les panneaux etc, et ça permet de voir où est-ce qu'on se situe, ça permet de voir quel dénivelé on a potentiellement fait sur les cartes. Il y a toujours le problème, oui mais ta batterie nanana, je mets mon téléphone en mode avion, ce qui fait que du coup je capte pas le réseau, et puis je m'en sers vraiment que pour l'application, pour les photos etc, et puis j'ai toujours ma batterie externe au cas où pour rebrancher mon téléphone, et aujourd'hui j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Forcément qu'une carte papier c'est mieux, mais bon aujourd'hui c'est vrai qu'on a des nouvelles technologies qui peuvent nous aider encore un peu plus, donc je ne crache pas dessus et j'en suis la première utilisatrice.
Et t'as raison. Est-ce que tu pourrais nous donner les coins de France où tu as préféré voyager, enfin randonner, et on va dire ta chaîne de montagne préférée en France?
Alors c'est un peu la question encore piège, parce que pour moi, tous les endroits en France, tous les départements ont leur petite touche. Et moi, je sais que voilà, je suis vraiment amoureuse de chaque département. Alors forcément, un aura un côté que l'autre n'aura pas. Après, si je veux faire vraiment large, on va dire que pour moi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vraiment la plus belle région pour moi. Et c'est là où il y a tous les coins. On fait voilà, 2 heures de route, on se retrouve dans un endroit différent. Et Auvergne et Rhône-Alpes, c'est vrai que c'est deux régions, enfin, maintenant qu'une, qui est vraiment incroyable. Et après, si je dois choisir une chaîne de montagne que je préfère, alors là, ça, je vais faire la chauvine à 100%. Donc, je vais dire le massif du Sancy dans l'Auvergne. Et bon, après, tout est magnifique. Les Alpes sont incroyables. Mais moi, j'aime bien mes petites Alpes du Sancy dans l'Auvergne.
En plus, c'est pas tellement connu.
Ouais, c'est vrai que c'est moins connu. Et au final, c'est un terrain de jeu qui est aussi... Alors forcément, c'est plus petit. Hein, c'est pas à l'échelle des Alpes. Mais c'est aussi, aussi pentu. Il y a aussi l'hiver, autant de risques quand on est en montagne dans les Alpes. Donc moi j'aime bien, je suis bien ici.
Et on va terminer le podcast avec la petite tradition qu'on fait tout le temps, c'est le mot libre. Le moment où tu dis ce que tu veux, ça peut être une galère ou une anecdote que tu aimerais raconter, un message que tu aimerais faire passer, voilà, ce que tu veux.
Bah écoute, on va dire, pourquoi pas parler d'une galère, ça peut clôturer le podcast avec un peu d'humour et un peu de rire. Par exemple, pour la petite anecdote rigolote, quand je suis partie pour la première fois toute seule en bivouac, du coup avec ma tante, j'ai eu la bonne idée de me dire ouais, en plein hiver c'est une bonne idée, on va partir toute seule. Donc je suis partie après les cours, j'ai installé ma tente, et sauf qu'au final, donc j'étais à peu près 1 heure de marche de ma voiture, je suis quand même restée dans le secteur, et au cas où qu'il m'arrive quelque chose, je me suis dit au cas où je peux rentrer à pied. Sauf que du coup, il s'est mis à geler à 20h, il faisait déjà moins 4, et là... problème, ma poche à eau s'est mise à fuir. Donc en fait, toute l'eau que j'avais dans ma poche à eau a coulé partout dans ma tente, sur mon duvet, donc tout a gelé et tout était trempé. Donc là, je me suis retrouvée toute seule, à la limite, pas d'hypothermie, mais j'étais là en mode, bon ok, j'ai super froid, comment je fais ? Et en fait, je me suis retrouvée en pleine nuit, donc vers 23h minuit, à remballer toutes mes affaires et ma tente, donc qui était complètement gelée, et moi avec, donc j'ai tout foutu dans mon sac à l'arrache, et je suis repartie pas fière avec ma frontale dans la forêt toute seule. Et du coup, ça m'a quand même forgée, parce que rentrer toute seule en pleine nuit, quand on entend les bruits des animaux, bon, on fait pas la maline. Et ça, c'est vraiment la petite anecdote, c'était ma première fois toute seule en bivouac, et au final, ça m'a forgée, hein. Maintenant, j'ai plus vraiment peur. Donc voilà, c'est la petite anecdote, et ça rebondit sur le fait que, voilà, il faut oser, et puis, qu'on soit une fille ou pas, ça change rien, voilà, il nous arrivera toujours des galères, et au contraire, il faut ressortir plus fort de ces galères, et faut pas avoir peur, voilà, bon, moi, faut faire les choses intelligemment, c'est vrai que là, j'aurais peut-être pas dû partir en hiver, mais au final, ça m'a appris plein de choses, et aujourd'hui, grâce à cette expérience, j'ai appris, voilà, vraiment plein de choses, et maintenant, on peut pas dire que je suis experte, mais je m'y connais beaucoup plus, et c'est avec les galères qu'on apprend, et qu'on apprend à se connaître.
Super, merci beaucoup et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je passais derrière le micro du verre à moitié plein. J'ai appris plein de choses sur la randonnée, sur la montagne, sur le trek, et je pense que les auditeurs aussi. Donc vraiment merci encore.
Et je t'en prie, ça m'a fait plaisir.
Si
C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.